Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 14 août 2024. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Donc, on sort de marchés tumultueux. Est-ce que tu peux nous parler des nouvelles qui ont retenu ton attention depuis la dernière semaine?
Oui, les marchés tumultueux, Sarah, ça c'était la semaine passée. Ouais. C'est terminé.
C'est pour ça que j'ai dit on sort de...
j'ai dit ça avec évidemment un grain d'humour. Là, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se produire, mais ça va quand même passablement mieux. Cette semaine, on parle de marché à la hausse au TSX depuis la semaine passée en hausse de 2,9%, le S&P en hausse de 3,7%, le Nasdaq en hausse de 5%. Ça fait que pour le mois d'août, on est ramené en territoire neutre, là, donc on est à zéro. Là. Les pertes qui avaient commencé le mois d'août sont effacées, du moins sur les indices boursiers. Depuis le début de l'année, on a donc quand même des bourses qui se comportent bien, 7,9 sur le TSX, 13,9 sur le S&P 500. J'aime toujours bien aller regarder nos indices obligataires. XBB, on recule là, il y a quelques temps, bon, des CPG à 5%, c'est pas mal chose du passé, là, on est plus dans des taux de 4, même un petit peu en bas de 4 sur les échéances de 5 ans. Mais l'indice obligataire est en hausse de 5,05 dans les trois derniers mois, de 9,37 sur un an. Donc, tu sais, c'est quand on avait un peu lancé l'éponge sur les obligations l'année passée, parce que les rendements passés avaient été désastreux là, en raison des hausses de taux, ben l'impact des baisses de taux ramène des rendements positifs du côté obligataire. ZFL, un indice là, des obligations fédérales à long terme. Là, donc, quand on veut l'impact des baisses de taux, on veut avoir de la durée le plus long possible. Donc, c'est un indice là, qui permet de mesurer l'impact des obligations à plus long terme. 10,2 sur un an. 10,2 sur un an avec des obligations. Le TSX est en hausse de 7,9 année à jour. On a des obligations qui performent mieux que notre indice canadien. Fait que des fois, il ne faut pas jeter l'éponge sur un secteur qui peut paraître un peu plate puis un peu ennuyant. Mais vraiment, les hausses de taux font que le secteur obligataire a maintenant une capacité de protéger les portefeuilles. Puis c'est vraiment on l'a vu la semaine passée, alors que les indices étaient très volatiles. Le secteur obligataire a quand même assez bien fait. Donc, les taux d'intérêt ont baissé un peu. Ce matin, là, il est présentement à 8h05, dans à peu près 25 minutes. On va avoir le chiffre de l'inflation aux États-Unis pour le mois de juillet. Les analystes s'attendent à ce que l'inflation soit à 3% année sur année, en hausse de 0,2 par rapport... que les prix aient augmenté de 0,2 par rapport au mois précédent. Donc, vraiment, on a une inflation... Sur un an à 3%, on est encore loin du 2. Par contre, on a assisté à une présentation d'un gestionnaire obligataire hier qui mentionnait bien, si on prend le chiffre d'inflation des trois derniers mois seulement puis qu'on l'annualise, on est en bas de 2. Je comparais les indices des matériaux. Le cuivre, au mois de mai, valait 5,10 la livre. On est à 4,07 la livre. Donc, on est en baisse de 20% là, depuis quelques mois. Le lumber, là, le bois d'œuvre, le mot français m'est venu, là, le bois d'œuvre, en mars, on était à 610 $, on est à 518. On se souvient que le bois d'œuvre, ça avait été la première affaire qui avait monté beaucoup là, au début de la période inflationniste. On était à 1648. Donc, il y a de l'espoir pour l'inflation. Le pétrole, en terminant, 94 en septembre l'année passée, on est à 78 maintenant. Du pétrole, là, c'est pas juste dans nos voitures qu'on en met, c'est dans tout ce qui est en plastique, c'est dans à peu près tout ce qui se fabrique, tout se transporte. Donc, si le pétrole est en baisse d'une vingtaine de dollars année sur année, certainement que ça va avoir un impact sur l'inflation dans les 2-3 prochains mois.
Bien, merci beaucoup, Martin. On va garder nos yeux rivés sur les chiffres d'inflation ce matin. La semaine dernière, on a parlé de la règle de bien connaître son client. On a parlé du profil d'investisseur qu'on doit remplir. Et nous avons brièvement mentionné la règle de... En anglais, ça se dit « know your product ». Mais en français, KYP. Mais en français, c'est le contrôle diligent des produits et la connaissance du produit.
Ouais.
Donc, aujourd'hui, on veut en parler, vu qu'on était sur sujet-là. Donc, en fait, le « know your product » ou le contrôle diligent des produits et la connaissance du produit, ça date seulement de décembre 2021. En quoi ça consiste?
Oui, donc c'est vraiment une obligation réglementaire maintenant des firmes et des conseillers de s'assurer qu'on connaît bien les produits qu'on offre à nos clients. Il me semble que c'est la base, pareil.
Puis je pense que c'est une question d'officialiser quelque chose qu'on faisait déjà.
Exact. Donc, ça implique de bien comprendre la structure des produits qu'on offre. Donc, des fois, là, ça signifie qu'il faut lire les petits caractères dans les prospectus puis dans les documents là, qui décrivent les produits. Bien comprendre toutes les caractéristiques des produits, bien comprendre les frais, la structure des frais, les coûts d'achat, de vente possibles, et aussi de mesurer ces caractéristiques avec d'autres solutions possibles qui pourraient être envisagées. Donc, ça semble évident. Par contre, ça doit être documenté. Donc, on a des processus à l'interne où notre équipe, à chaque mois, on révise notre univers. On a des fichiers dans lesquels on va garder les documents qui démontrent qu'on a fait l'analyse de tel fonds, tel produit, telle action, puis pourquoi qu'on a recommandé ces titres-là au portefeuille. Donc, c'est pas juste de le faire, mais il faut le documenter. Il faut en assurer un contrôle continu. Donc, si un produit était pertinent il y a un an, il y a deux ans, et que le contexte change, les caractéristiques changent ou d'autres produits deviennent disponibles qui pourraient être meilleurs, on a l'obligation là, de maintenir donc ce contrôle continu-là et donc de réviser périodiquement notre analyse des produits. Fait que c'est sûr que, tu sais, un bon conseiller, il y a 20 ans, faisait ça par défaut. Les autorités réglementaires sont venues un peu encadrer cette pratique-là pour s'assurer que ce n'est pas juste les bons conseillers qui le fassent, que ce soit tous les conseillers qui aient l'obligation de le faire.
Et nous, dans notre équipe, vu qu'on est plusieurs à parler de placement, mais on s'assure, notre façon de nous assurer, c'est vraiment d'avoir des rencontres hebdomadaires et de donner accès à cette documentation-là et ces systèmes-là.
Partager l'information à l'intérieur de l'équipe.
Exactement. Peux-tu nous dire quelques-unes des sources qu'on utilise. Donc ça, c'est une discussion qu'on a déjà eue dans le passé sur d'autres balados, mais je pense que c'est pertinent d'y revenir. Qu'est-ce qu'on utilise pour approfondir nos connaissances sur les produits?
Oui, donc c'est sûr qu'au niveau des actions individuelles, on a une équipe d'analystes chez VMD qui nous donne beaucoup d'informations. Ceci dit, on n'est pas obligé d'être en accord avec nos analystes. Ils sont pour nous une source d'informations. Donc, on va lire leur rapport de recherche. On a accès à de la recherche externe aussi. Je pense à Accountability Research, par exemple, qui est une firme d'analyse de titres qui ne gère pas d'argent. Eux, ils font juste analyser des actions. On a accès à cette recherche-là également par l'entremise de VMD. Donc, on va lire ça au niveau des titres individuels. On a accès, anciennement, c'était Crédit Suisse. Là, maintenant, c'est devenu UBS. UBS qui a acheté Crédit Suisse. Donc, pour les titres américains, on a accès à cette...
Et BCA?
BCA Research, c'est plus la macroéconomie. Ouais, là, ouais. Ils ne font pas de l'analyse de titres individuels, mais ils vont quand même nous orienter d'un point de vue plus macroéconomique avec MRB Research aussi. Donc, vraiment beaucoup de sources. Au niveau des fonds communs de placement, ben, l'outil tout indiqué, c'est Morningstar Workstation. Donc, beaucoup de gens connaissent les étoiles de Morningstar. Donc, Morningstar, c'est une firme d'analyse de produits, mais ils ne font pas juste analyser les fonds communs de placement. Dans le logiciel Morningstar Workstation, on a à peu près tous les titres financiers qui existent avec les états financiers de toutes les entreprises cotées en Amérique du Nord. Donc, si on veut savoir quel a été le résultat financier en 2018 de n'importe quelle entreprise, on clique, on va chercher, donc on a la croissance historique de tous les titres. Donc, c'est vraiment un outil là, pour nous, notre équipe, on est là-dedans à longueur de journée à vraiment essayer de s'assurer que les titres qu'on détient, ben on a accès là, rapidement et facilement à la rentabilité de ces entreprises-là. Évidemment, les compagnies maîtrises, on parle au niveau des fonds communs de placement, ben c'est sûr qu'on se fait pitcher des idées, on se fait lancer, proposer des idées par les différentes entreprises de fonds. Nous, on va après ça prendre cette idée-là puis l'analyser nous-mêmes dans Morningstar. Là, on n'a pas besoin Il y a trop de produits pour toutes les connaître, mais on va d'abord faire un premier filtre, puis ensuite, avec l'outil Morningstar, vraiment venir mesurer est-ce que c'est vraiment un outil qui est meilleur que les produits qu'on utilise présentement.
Donc, comme hier, on écoutait un gestionnaire de fonds d'obligation que tu as mentionné, nous parler un peu de sa vision du marché et nous parler un peu de son fonds d'obligation. Après ouais. ça, nous, on va mesurer, comme tu dis, de façon indépendante, si on a le goût de l'intégrer.
Exactement. Donc, fait que c'est vraiment puis des lectures variées. Là, donc, je veux dire, on se lève le matin, puis tu sais, qu'est-ce qu'on fait, Sarah? Ben, la première chose qu'on fait, on rouvre le Wall Street Journal, Globe and Mail, Globe Investors, CNBC. Donc, vraiment de lire constamment. Donc, en partant le matin, en prenant le café, la première heure qu'on fait, c'est de lire sur les marchés financiers. Puis, c'est une passion pour nous. Donc, ouais. notre façon de nous reposer, c'est de lire sur les marchés financiers. Je ne sais pas si c'est reposant que ça.
Puis moi, je pense que les deux, on essaie très fort d'avoir une lecture très variée. Donc, ouais. c'est-à-dire que ma routine, c'est de commencer avec le Wall Street Journal, lire la presse pour avoir les nouvelles locaux, avoir le son de cloche qui est transmis à nos clients sur les marchés financiers et ensuite lire le Globe and Mail.
Ouais.
Donc, je fais le tour un peu pour avoir une bonne idée et ça nous permet de mettre en contexte les produits qu'on utilise aussi avec l'environnement qu'on vit. Et toute la journée, on a sur la télé CNBC qui est ouais. à côté de nous, qui nous crie après quasiment.
Puis une source à ne pas négliger aussi, le groupe conseil en portefeuille chez Valeurs oui, Mobilières. Donc l'équipe, vous connaissez Jean-René Ouellet là, qui est souvent sur notre balado. Donc on reçoit de cette équipe-là beaucoup d'informations. Donc ils font un premier filtre de tout ce qu'il y a à savoir. Et à chaque jour, on reçoit plein d'informations d'eux. Donc, ils sont également une source importante d'informations.
Absolument. Puis, ils font un appel à chaque matin. Exact. C'est qu'on peut écouter.
Ouais.
Pour les clients qui n'ont pas nécessairement accès aux mêmes sources d'informations que nous, est-ce que tu peux leur donner des conseils sur comment aller se renseigner si ça leur tente sur les produits, sur le marché en général?
Oui, peut-être la première source pour nos clients, VMD Conseil, là, si vous n'allez jamais dans votre compte, allez-y. Puis on peut cliquer, donc tu sais, je rentre dans mon REER, puis là dans mon REER j'ai un paquet de produits, je peux cliquer sur le symbole du produit, ça va généralement ouvrir la page Morningstar, et puis sur celle-là, ben là, sur la page Morningstar, ce n'est pas exactement le même outil qu'on a, c'est un outil qui est c'est de l'information qui est moins complète, là, mais qui est quand même passablement complète là, pour les clients. Donc, tu sais, faites l'exercice d'aller cliquer là, sur les différents logos dans
Si ça vous intéresse, sinon, appelez-nous puis on va vous donner l'idée.
On va vous l'expliquer. Mais ça, c'est une source. Évidemment, l'Internet, là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations disponibles. Tu sais, les Yahoo Finance, Globe Investor pour les titres canadiens, c'est intéressant. Notre balado, évidemment. J'espère qu'on partage l'information que les auditeurs trouvent pertinent. Mais de grâce, là, tu sais, les influenceurs sur les réseaux sociaux, tu sais, de 23 ans qui essaient de proposer des façons de devenir riche rapidement puis d'investir dans n'importe quoi, tu sais, de grâce, on laisse ça de côté, là. C'est pas...
Puis je pense que le conseil qu'on peut donner aussi, soyez sceptiques. Puis si vous voyez quelque chose que vous n'êtes pas certain, appelez-nous. C'est ça qu'on veut vraiment, c'est d'avoir des discussions. Puis des fois, ça implique des discussions qui peuvent être difficiles. Ouais. Puis on aime bien les discussions difficiles.
Exact. Mais avec les codes de produits, là, tu sais, souvent dans les fonds communs ou le symbole boursier, si on fait juste mettre le symbole ou le code de produit dans Google, on va se rendre assez facilement à la page du produit, puis on peut se faire une petite idée.
Puis il y a une chose que je réalise souvent avec les clients, sont comme « Ah, je voulais pas t'appeler, je voulais pas te déranger, j'étais pas sûre si ma question était pertinente. »
On est là pour
ça. Et moi, je trouve que plus souvent que jamais, les questions sont hyper pertinentes et ça nous met un peu au défi à penser à notre façon de penser.
Ouais.
Est-ce que tu as remarqué une différence au courant de ta carrière en raison de la croissance à l'accessibilité à l'information et des sources d'information qui sont de plus en plus nombreuses comme les réseaux sociaux?
Ouais. Donc, si on recule en 2001, on était au début de l'Internet, là, tu sais, downloader une photo, ça prenait 10 minutes, là. Ouais. Donc, c'est sûr que, tu sais, nous, les conseillers, on était l'accès au marché financier, essentiellement. Les clients, si vous voulez investir en bourse, c'était à travers nous qu'il fallait le faire, puis les sources d'information étaient plus difficiles à obtenir. Aujourd'hui, les clients ont vraiment des connaissances beaucoup plus élevées. La littératie financière est de loin beaucoup plus élevée. Puis c'est une bonne chose, là. Les clients doivent s'intéresser à leurs finances, puis doivent être éduqués. Une des choses qui est marquante, là, c'est un peu l'obsession sur les frais. Puis c'est encore là, c'est une bonne chose, là. Il faut minimiser les frais, mais il faut pas oublier que le but des frais, en fait, c'est d'avoir un rendement après frais, là. Donc, bien souvent, je pense qu'on oublie la portion rendement, puis on obsède sur la taille du frais, alors qu'on doit observer plutôt le rendement après frais. Le frais étant peut-être un frein au rendement, mais n'est pas une fin en soi, là. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on est devenu beaucoup plus des gestionnaires de patrimoine où l'importance de la planification financière dans la relation d'affaires est beaucoup plus importante parce qu'aujourd'hui, à peu près n'importe qui peut investir. On n'est plus l'accès au marché. Le marché, il est accessible. L'information, elle est disponible. Donc, on n'a plus besoin d'avoir un conseiller juste pour dire, ben, je veux investir en bourse, ça me prend absolument un conseiller en placement. Aujourd'hui, on est votre gestionnaire de patrimoine, puis on est là pour vous accompagner dans l'ensemble de votre situation financière, incluant la gestion des placements. Mais si on faisait que ça, on a une valeur ajoutée, je pense, dans l'accompagnement psychologique de comment bien se comporter dans les marchés volatiles, mais autrement, de choisir un produit, l'information, elle est disponible pour le client.
Pour ma part, qu'est-ce que je trouve qui a changé, parce que j'étais dans l'industrie avant, on a commencé ensemble à une autre banque, et dans le temps, je me rappelle que c'était politisé, les investissements et les produits. C'était très neutre, on avait besoin de l'information, on en discutait, tandis qu'aujourd'hui, le type de produit est beaucoup plus, comme toute autre chose dans notre société, beaucoup plus politisé. Est-ce que je devrais investir dans ça? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ce type de produit-là est meilleur? Donc, avec l'information, il y a une espèce de débat qui est arrivé. Et c'est un bon débat. Je pense que c'est nécessaire et ça peut juste aider les clients à faire de bons choix. Et ça peut nous aider aussi à réfléchir sur nos choix.
Exact.
Ben merci beaucoup, Martin. Pour nos clients et partenaires, si vous avez des questions concernant ce balado, laissez-nous savoir. Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos questions ou objectifs financiers personnels. Communiquez avec nous. Merci pour votre écoute. Nous serons de retour au mois de septembre puisque nous prenons une pause de notre balado pour les deux prochaines semaines.